Élodie Crézy, Radio Victoria, IGL. Pour son dernier rendez-vous de la saison 2025-2026, le théâtre La 16e présente deux pièces décapantes, La Convivialité et Kevin, qui seront présentées au Waterfront Theatre de Vancouver du 19 au 23 mai. Créés par la compagnie belge Chantal et Bernadette, les deux spectacles analysent respectivement l'orthographe du français et l'égalité des chances à l'école. Véritable succès en Europe, ils cumulent près de 650 représentations à eux deux. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être en ligne avec les deux interprètes et créateurs, Arnaud Hout et Jérôme Piron. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Nous allons présenter ces deux spectacles, mais avant, je voulais vous poser cette question. Pourquoi avoir choisi de vous retourner vers la scène et de créer ces pièces, vous qui êtes des professeurs et linguistes de formation ?
On avait hâte de quitter l'école.
Ça, ouais. C'était plus pour toi que pour moi, ça. Ouais, c'est vrai. Et puis un prof, c'est toujours un peu un acteur aussi. Hein. Le prof, il est devant un public, il fait les mêmes blagues chaque année. Il a un rapport à la scène qui est quand même assez étroit, même si le public est restreint et souvent plus jeune. Mais oui, et après, on a rencontré les bonnes personnes. On a défendu un sujet, nous, la réforme de l'orthographe. Et en défendant ce sujet, on a réalisé que ça intéressait pas mal de gens dans le monde culturel qui nous ont offert des opportunités de se présenter d'abord sous une petite forme de 20 minutes et puis dans un spectacle complet. Et puis plus le spectacle avait du succès, plus évidemment, on a attiré l'attention des gens de théâtre qui nous ont finalement permis de faire le deuxième spectacle également. Donc c'est un parcours où le sujet lui-même de la langue et de l'orthographe, comme nous on était prof de français, des profs de français qui revendiquent une réforme de l'orthographe, c'était un peu, il y avait une petite subversion, pour rien exagérer évidemment, c'était pas non plus la révolution, mais c'était un peu subversif et donc du coup ça a attiré pas mal de gens vers nous et on est ravis de pouvoir continuer à faire ça 10 ans après.
Merci Arnaud. Jérôme, vous avez la même analyse, on va dire.
Oui, en fait, ça nous est un peu tombé dessus. On avait un jour de congé par semaine dans notre horaire et on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on ferait ? Et alors, on a eu l'idée d'écrire cette conférence et on a rencontré les bonnes personnes, on a eu les bonnes opportunités. Et de fil en aiguille, chaque fois, on apprenait, par exemple, qu'on allait jouer à Avignon, au Festival Avignon, ou bien qu'on allait recevoir un subside, etc. Et donc, chaque fois, on était emballé par les opportunités qui s'offraient. Et à un moment, il y a eu tellement de dates qu'on a été un peu contraint de quitter l'enseignement. Mais outre la blague, on était bien dans nos classes. C'était un métier qu'on aimait beaucoup.
Alors, vous posez en substance une question dans La Convivialité, créée en 2016. À quoi sert exactement l'école ? Et si les règles du français, les règles d'orthographe, de grammaire qui font transpirer sur leur pupitre des écoliers depuis la nuit des temps, n'étaient qu'un immense malentendu ? Qu'entendez-vous par là ?
Alors, il y a une chose qui est très importante pour nous, c'est que le spectacle essaye de porter un regard critique sur l'orthographe elle-même et pas sur les gens qui la pratiquent. Souvent, on critique l'orthographe des gens et nous, on s'est dit, tiens, et si on critiquait l'orthographe elle-même ? Et on a appris, grâce à nos études, qu'il y a des choses qui sont très bien faites dans l'orthographe du français et puis d'autres qui sont plutôt franchement mal foutues quand on connaît l'origine, la fonction et qu'on connaît un peu l'ensemble du système. Je peux prendre un exemple pour que ce soit très concret. On sait tous quand on doit mettre un X au pluriel, enfin, par exemple, pou, hibou, caillou, genou.
Presque tous.
Ou même deux mots, mais presque tous. Mais alors, quand on demande aux gens pourquoi on met un X, là, en général, les gens ne savent pas parce qu'on leur a appris en leur disant « écoute, c'est comme ça ».
Oui, pas autrement.
Et on a arrêté de se poser des questions. Et nous, c'est ça qu'on voulait savoir. Et quand on a découvert les raisons, on s'est dit « mais en fait, on peut vraiment considérer que ce sont de mauvaises raisons. Ce n'est pas parce qu'il y a des raisons qu'elles sont bonnes. » Et par exemple, le X, ça vient d'une erreur de recopiage, d'une abréviation. Donc en fait, ça n'a rien à faire dans l'orthographe. Ce n'est même pas une lettre, en fait.
Oui, tout à fait. Et le malentendu, il est lié aussi au fait qu'on confond en permanence la langue et l'orthographe. C'est-à-dire qu'on a l'impression que si on modifie l'orthographe, on va modifier la langue, alors qu'en réalité, l'orthographe, c'est un outil d'abord technique qui permet de transmettre la langue, donc de la retranscrire. Et cet outil n'est pas, comme tous les outils, n'est jamais parfait. On ne peut pas imaginer que cet outil soit parfait. Et dans toutes les langues du monde, on a passé pas mal de temps à le rénover, à le réformer. En français, on l'a fait jusqu'au milieu du 19e siècle aussi. L'orthographe évoluait avec les instances responsables pour le faire. Mais cette évolution a été bloquée, notamment pour des raisons sociales et politiques. On a découvert aussi la dimension sociologique et sociale de l'orthographe. Et on s'est dit que ce qui était intéressant, c'est que ça alliait à la fois un nombre de fun facts invraisemblables, c'est-à-dire que dès qu'on vous parle d'une orthographe, vous ouvrez des yeux ronds parce que vous ne savez pas d'où ça vient, et une dimension politique liée à l'école, liée à ce que Foucault appelle la gouvernementalité de l'école. C'est un peu pédant de dire ça. Mais... Et donc, l'idée, c'est vraiment d'allier un sujet à la fois fun et intéressant en même temps.
Alors, vous mettez en scène une dictée, prétexte pour déconstruire de manière hilarante l'orthographe. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez du coup à cette orthographe? C'est ce que vous avez dit tous les deux. C'est un petit peu le fait de l'avoir sanctuarisé bêtement, on n'y touche pas, c'est comme ça et pas autrement.
C'est ça, c'est qu'on a des amis qui sont des gens qui revendiquent vraiment, comme je le disais, de faire preuve d'esprit critique envers l'actualité, l'information, etc. Mais alors, à partir du moment où il s'agit d'orthographe, on a l'impression que l'esprit critique disparaît. En fait, non, tout est bien comme ça, il faut surtout toucher à rien. Et on peut donner des raisons, des arguments, des explications pour dire pourquoi il faudrait changer telle ou telle règle. Mais en fait, il y a une sorte de blocage psychique. Et c'est ça qui nous a intéressé, c'est de comprendre ce blocage, même chez des connaissances qu'on avait qui étaient particulièrement progressistes. Et ça, on s'est dit, OK, là, il y a quelque chose de particulièrement intéressant.
En plus, il y a une dimension physiologique à l'orthographe, c'est-à-dire que quand on voit un mot orthographié différemment de ce qu'on connaît, le cerveau s'arrête, achoppe. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on y apporte directement une réponse morale, sociale, ou avec des interprétations incroyables, alors qu'on ne s'interroge pas une seconde sur la responsabilité de l'orthographe elle-même dans la difficulté de retranscription. Et on se dit, c'est forcément la faute de la personne qui essaye d'écrire, mais c'est peut-être aussi la faute du système d'écriture lui-même. Et il y a plein d'endroits où ce système d'écriture peut être amélioré.
Et vous allez jusqu'à y voir parfois un outil de domination sociale derrière cette orthographe.
De discrimination même. Oui, c'est-à-dire, en fait, quand si l'orthographe était logique et si elle était bien foutue, on pourrait se dire, OK, telle personne a fait plus d'efforts que telle autre et pourquoi pas. Mais à partir du moment où l'orthographe elle-même est arbitraire, commencer à s'en servir pour juger ou sélectionner, c'est ça qu'on appelle une discrimination, c'est quand c'est basé sur de l'arbitraire.
C'est ça, et puis il y a plein d'endroits aussi où on tolère la variation, la faute, l'erreur ou même la variation, puisqu'on sait que il n'y a pas une orthographe une et indivisible comme le fait rêver la République française, mais il y a des pratiques d'orthographe variées. En anglais, par exemple, on sait que il y a des variations orthographiques entre l'anglais d'Angleterre et l'anglais américain, et ça pose beaucoup moins de problèmes puisque nous on a vraiment renvoyé une réponse morale directement liée à l'hypercentralisation de la langue française autour de Paris et autour de la culture française qui est souvent très très verticale. Hein. On a le maître, celui qui maîtrise le littéraire, et puis on a les pratiques qui seraient un peu triviales de communication et donc avec les gens, quoi. Et donc l'idée, c'est vraiment de remettre la réalité sur ses pieds, de voir ce que les linguistes ont accumulé comme savoir sur ces questions et de relativiser la sacralité, le côté dogmatique de l'orthographe, en fait.
Et peut-être que si ça fait tant rire, est-ce que c'est pas parce que justement on se reconnaît un peu tous là-dedans, que l'on a tous souffert sur ces dictées, cette orthographe qu'on nous présentait comme un peu le sésame pour avoir un avenir une fois adulte, voilà, une pression énorme quand on y pense, qui tout perdure.
On a tous souffert, oui, ou fait souffrir.
Oui.
Les bourreaux sont souvent autant victimes.
Exactement, je me revois avec mon fils.
Puisqu'ils défendent des choses auxquelles ils n'ont peut-être pas forcément réfléchi.
Alors, avec Kevin, cette fois-ci, vous vous attaquez carrément à l'école. Mais qui est Kevin et qu'est-ce qu'il nous montre?
Alors, Kevin, c'est un élève qu'on a eu en classe. Et en fait, c'est un élève, on avait beaucoup de mal à comprendre pourquoi il ne comprenait pas. Il avait des difficultés et nous, ces difficultés, on n'arrivait pas à les saisir. En fait, on est parti du principe très rapidement qu'il devait être bête. Et c'était un constat dur, mais c'est un constat qui vient dans la tête de beaucoup d'enseignants face à des élèves quand on ne comprend pas ce qu'ils ne comprennent pas. Et on a repensé à cette situation et on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester sur ce constat. Et on a lancé une grande enquête, on a rencontré des sociologues, on a rencontré des pédagogues, on a rencontré plein de gens qui travaillent dans les sciences de l'éducation pour essayer de comprendre en fait ce qu'on n'avait pas compris nous-mêmes dans les difficultés de cet élève. Et c'est ça qui lance en fait un petit peu la quête de ce spectacle.
Oui, et on a aussi découvert que si Kevin n'était pas adapté à l'école, on a aussi constaté que l'école n'était pas adaptée à Kevin et que ce manque d'adaptation de l'école à certains élèves issus de milieux sociaux défavorisés ou populaires est vraiment une des caractéristiques principales de nos systèmes d'éducation en Belgique et en France. La Belgique et la France sont les deux champions du monde de la reproduction des origines sociales dans les résultats scolaires. Et donc, on s'est dit, bah, c'est chez nous que c'est le pire. Donc voilà un sujet qu'il faudrait aborder directement dans les théâtres en Belgique et dans les théâtres en France pour essayer d'interpeller un peu les gens sur qu'est-ce qui fait qu'au Canada, aux États-Unis ou même enfin partout dans l'OCDE, les enfants pauvres ont un peu plus de chances de pouvoir accéder à des postes à responsabilité ou réussir à l'école qu'en Belgique et en France.
Très bien. Alors, la convivialité, elle prendra l'affiche les 19 et 20 mai, en français seulement, et Kevin jouera du 21 au 23 mai avec des surtitres en anglais. Alors, j'ajoute que des discussions entre les artistes et le public sont prévues tous les soirs après les représentations. Je pense que vous y tenez.
Et nous, on vient ici surtout pour rencontrer des gens. Oui. Parce que c'est ça qu'on le connaît et on est vraiment impatients de pouvoir rencontrer des gens de Vancouver.
Et puis, il y a une docteure et sociolinguistique, Marie-Ève Bouchard, qui se joindra à la rencontre le mardi 19 mai et l'orthopédagogue Lucille Denis le jeudi 21 mai pour apporter peut-être un ancrage local, son point de vue à elle. Voilà.
Oui, super, oui, on est ça, aussi impatients de rencontrer les chercheurs et les chercheuses. Nous, en fait, on fait ce boulot de vulgarisation uniquement pour traîner avec des gens cool de l'université. Hein. C'est notre prétexte pour pouvoir rencontrer des gens intelligents.
Des gens plus intelligents que toi, tu veux dire.
C'est ça.
Mais merci.
Si, ça existe. Il paraît qu'il y en a.
Merci beaucoup à vous deux. Merci Jérôme Piron et Arnaud Hout. Et bonne représentation surtout.
Merci à vous encore. À bientôt.